Bonsoir à tous. Quel bonheur de vous retrouver après ce mois de juillet qui, je l'espère, aura été agréable pour vous. Comme vous le savez peut-être déjà, je vais remplacer Olivier Delacroix le temps de sa deuxième partie de vacances à lui, c'est-à-dire jusqu'au 20 août, mais sur un planning un peu différent puisque nous allons nous retrouver tous les soirs du lundi au vendredi inclus, de 22h, enfin un peu plus après le journal de 22h, jusqu'à minuit. Olivier, lui, reviendra pour la rentrée le 23 août et je reprendrai les week-ends à partir du vendredi 27. Voilà, vous savez tout. Je ne sais pas si vous étiez là le soir où je vous ai dit que nous brassons en moyenne 70 000 pensées chaque jour. Je vous ai quitté il y a 29 jours, c'est-à-dire que depuis que je vous ai quitté, plus de 2 millions de pensées ont traversé mon esprit et le vôtre aussi. Autant vous dire qu'on a pris un sacré retard dans tout ce qu'on a à se raconter. Des pensées tristes, des pensées gaies, des pensées profondes, d'autres plus légères. Venez les partager avec nous ce soir, rappelez-moi au 3921. Fanny et Kelvin sont là pour recevoir vos appels et vous guider ensuite jusqu'à moi dans ce studio que je suis ravie de retrouver ce soir. Pour participer à l'émission par SMS, vous connaissez le principe, vous faites le 7-39-21 suivi du mot nuit et de votre message. Enfin, je vous rappelle notre adresse mail pour nous joindre à tout moment, libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. C'est Frédéric Dervin qui réalise notre émission. Et si vous êtes prêts, vous savez ce qu'on fait ? Eh bien, on commence.
Venez vous confier à Sabine Marin sur Europe 1.
Et on commence avec l'appel de Vincent. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Sabine Marin.
Soyez le bienvenu.
Et merci, bonsoir aux autres auditeurs.
Alors, je suis ravie de vous accueillir. Vincent, qu'est-ce qui motive votre appel ce soir ?
Ah, c'est l'éternelle question du pardon. Pour remettre les choses dans le contexte, il y a quelques jours,
oui,
on m'a annoncé que ma grand-mère maternelle est mourante. Bon. Et le problème, c'est que ça fait... toute l'histoire familiale a ressurgi, là. Je pensais avoir... j'ai près de 46 ans, je pensais avoir bien évolué là-dessus et je vois que tout ce qui a pu m'arriver, mes 19 premières années ont été un cauchemar.
Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu de ça, du début,
oui,
du début,
oui,
de l'histoire?
Bien sûr. Oui, oui. 19 premières années, c'était l'horreur. C'était la violence, c'était... les humiliations, enfin, les brimades.
De la part de qui ?
De la part d'un homme qu'on a fait passer pour mon père et qui n'est pas mon père.
Ah.
Voilà.
Et qui est on a fait passer ?
Oh ben, tout le monde, hein, toute la famille, ma mère.
Ah, donc tout le monde savait, alors ?
Oui, 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 tout le monde savait. Et on a masqué les choses. Mais enfin, si me voulait une telle violence, c'était bien à cause de ça. Hein.
Mm-hmm.
Bon, donc au bout de 19 années... comme il y a des choses qui n'allaient pas, il était temps que je. Enfin, pour vous expliquer, brièvement, moi je me suis raccroché aux études. Voilà.
Mmh.
Je suis vétérinaire de formation, mmh, et donc j'ai tout mis dans mes études. C'était ma sortie de secours. Il était impératif que je parte, hein, de la maison.
Mmh.
C'était vital parce que cet homme-là, s'il avait pu, il m'aurait tué, ça c'est clair et net. Hein.
Et votre mère n'est pas intervenue?
Ah, ben, ma mère, le problème, c'est qu'elle en prenait autant.
Elle avait peur de lui aussi.
Oui, et que, ben, puisqu'elle lui avait promis, mais ça, c'est a fortiori, ou a posteriori. C'est-à-dire que, comme elle lui a fait promettre de rien dire, bon, ben, il la tenait, quoi. Hein.
Mm-hmm.
Il la tenait. Donc, bon, elle ne pouvait rien dire. Et puis, comme il a un côté un peu sociopathe, vous savez, à force de vivre avec ce genre de personnalité, ma mère est devenue. Pas indifférente, mais bon, elle s'est construite une carapace très.
Elle était un peu coincée, j'imagine, dans tout ça, dans ce schéma-là, quoi.
Oui, 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 sauf que vous allez voir, c'est un schéma qui se répète. C'est-à-dire qu'elle a connu ça quand elle était enfant, sa propre mère a connu ça, la violence, c'est pour ça que.
Donc on en arrive à cette grand-mère dont vous avez parlé, là, si je comprends bien.
Oui, j'ai l'impression que.
Respirez, Vincent, respirez. Prenez le temps. Juste pour essayer.
Je pensais, parce que ça, pour tout vous dire, ça fait 10 ans que j'ai coupé les ponts avec ma mère et ma grand-mère. Parce que j'ai essayé pendant des années de leur parler, de construire quelque chose d'autre, vous voyez.
Mais qu'est-ce que vous avez essayé de leur dire ?
D'être reconnu en tant que victime. Voilà. Parce que quand vous entendez dire par votre propre mère qu'elle ne comprend pas que vous mettiez en colère, Écoutez, j'ai bien des raisons d'être en colère.
Et oui, mais elle ne peut pas l'admettre. Si elle l'admet, elle admet sa propre faute.
Et ça, je suis d'accord avec vous.
Et oui, elle admet ses failles, donc c'est pour elle, c'est pas supportable.
Et je sais bien, j'en ai bien eu conscience, donc j'ai essayé de construire, de repartir sur d'autres bases, et ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible, j'ai vraiment essayé, j'entends bien ce que vous dites, hein, effectivement, c'est, la culpabilité est trop forte, hein, de toute façon, c'est l'histoire de cette famille, hein, la culpabilité, c'est que ça, hein. C'est beaucoup de secrets de famille, de non-dits, de choses cachées.
Juste Vincent, pour que je comprenne un petit peu, ce monsieur-là, cet homme qui a été votre père de fait, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il soit comme ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? On ne devient pas comme ça sans raison.
Bon alors déjà, c'est quelqu'un... je sais qu'on vous l'a dit 10 000 fois, mais oui, il a quand même une personnalité narcissique, ça c'est sûr. Mm-hmm. Je ne peux pas dire le contraire. Sadique, hein, ça, je peux en témoigner. De son enfance, alors moi j'ai connu donc son père, hein, puisque on l'a fait passer pour mon grand-père paternel. De son enfance, apparemment, bon, moi je suis d'origine maghrébine, ça se passait en Tunisie. Bon, apparemment c'était le père qui prenait en main l'éducation des garçons. Mmh. Et bon, enfin, vous imaginez un peu...
J'imagine qu'il y a forcément un moment donné où il a dû souffrir pour en arriver là, quand même.
Oui, certainement. Certainement qu'enfant, il a dû prendre des coups. Oui, ça, Ouais. Bien sûr.
Une fois de plus, ça n'excuse pas, ça explique.
Oui, non, mais je le prends bien.
D'accord.
Mais oui, bien sûr, parce que moi-même, je m'étais posé la question... Enfin bon, il a fait des choses. Bref, vous voyez, moi, ça a duré 19 ans. Ça va, j'ai la conscience tranquille. Hein. Je sais que son père a été dur. Certainement qu'il y a eu des coups de nerf de bœuf. Est-ce que c'est le nerf de bœuf?
Oh oui.
Voilà, donc moi-même, j'ai été victime de ça. Donc je peux vous dire ce que c'est. Mais je n'ai pas eu l'impression non plus que c'était tout le temps, enfin, je sais pas, j'ai plutôt eu l'impression que arrivé à l'adolescence, il a pu mener une vie plutôt indépendante, voilà, commencer à travailler, commencer à...
En tout cas, moi, ce que j'entends dans votre histoire à vous, c'est que c'est quand même quelque chose qui vous a permis de vous forger un caractère suffisamment fort pour trouver un chemin.
Alors, je me suis construit en opposition par rapport à cet homme-là, ça c'est évident.
Oui.
Qui était alcoolique, etc. Donc, j'ai pris le chemin opposé. Mm-hmm. D'ailleurs, je n'ai pas d'enfant parce que c'était clair pour moi que je n'aurais pas d'enfant. J'étais enfant, j'ai 4 demi-sœurs plus jeunes que moi, donc on me disait, c'est toi l'aîné, c'est toi qui es responsable. Enfin, on m'a fait peser sur les épaules tellement de responsabilités, de charges. C'était trop lourd.
Jamais, quoi.
Pour un enfant, c'était trop. C'était trop. Donc voilà, donc moi, je me suis raccroché à mes études. J'ai eu une sortie de secours. Mm-hmm. Pour moi, l'école, c'était le refuge. Hein.
C'est une belle sortie. Moi, je vois ça comme une autoroute. Hein. C'est pas une petite porte dérobée d'arriver à être vétérinaire, quand même. Hein.
Non, mais...
Il faut bosser. Hein.
Oui, mais c'est... Bien sûr. Donc, l'école, c'était le refuge. Hein. Enfin, mm-hmm. Clairement, hein, ça permettait de ne pas être à la maison. Et en fait, ce qui a fait que j'ai décidé de partir, c'est trop tard, c'est le passé, mais pour moi, j'avais l'idée qu'il me laissait en paix faire mes études, et puis je l'endurais. Voilà, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Sauf que je suis arrivé. Alors déjà, le bac, c'est un homme qui s'est montré jaloux à mon égard parce que j'étais très bon élève.
Oui.
Donc déjà, la préparation du bac, il m'a vraiment compliqué les choses. C'est-à-dire que même la nuit qui a précédé la première épreuve, c'était l'épreuve de philo. On s'est retrouvés à la rue, ma mère et mes sœurs et moi. Enfin bon, voilà.
Et oui, vous lui avez renvoyé une image qui était l'opposé de lui, quoi.
Oui. Première année de prépa, donc à la fin d'année, il fallait préparer le concours. Bon, autant vous dire, c'est pareil, là, il m'a pourri l'existence. Si je sais aux écrits, j'ai vu que les écrits, ben, j'étais pas. Il faut être un battant, là, il faut être rookie, hein, pour décrocher le concours d'entrée en école vétérinaire. Et, mmh. et j'ai pas eu la paix à la maison, donc bon. Donc je suis revenu et j'ai dit, je m'en vais. Moi, je t'ai demandé qu'une seule chose, c'est de pouvoir faire mes études, voilà. Et là, ça, tu m'en as empêché. Ça avait été le cas pour le bac, ça a été à nouveau le cas pour ça. Donc, et je suis parti. J'ai fait volte-face.
Vous êtes parti où, comment?
Au début, je suis parti. Alors, j'étais sûr de moi. Hein. J'ai dit, là, basta. Moi, le contrat, c'était... il me laisse décrocher le concours entre une école vétérinaire. Et après, je me débrouille. Hein, voilà. Et là, clairement, il n'y a pas... c'est un contrat que j'ai passé dans ma tête, hein, vous voyez.
Oui, je comprends bien, mais en même temps, il vous fallait un toit sur la tête et de quoi manger, quand même.
Oui, sauf que la nuit, moi, j'étais à 300 km en internat, l'année de prépa. Hein.
D'accord.
L'année de prépa. Mais pour préparer le concours, ben là, on vous renvoie chez vous, quoi. Enfin, on vous renvoie chez vos parents, parce que c'est pendant 5 semaines, voilà. Il faut au moins ça pour préparer ce genre de concours.
Ouais.
Et bon, c'était l'enfer. Donc j'ai dit, bon, alors je suis parti et avec un soulagement, un sentiment de soulagement.
J'imagine.
Oh là là,
ouais.
Ah non, j'ai dit plus jamais. Et je suis allé donc chez un frère de ma mère qui habitait pas loin. Voilà, qui ont bien voulu me recueillir cette nuit-là. Cet homme, c'est mon ex-beau-père étant très séducteur, hein, très charmeur.
Comme tous les manipulateurs.
Voilà. Mmh. Mon oncle, le lendemain, après avoir parlé, donc, oui, mais pourquoi tu n'aimes pas ton père?
Mais ouais.
Alors, ma tante qui était au courant, tout le monde était au courant de la violence que je subissais. Tout le monde. Je veux dire, enfant... à l'école, en centre aéré, les voisins, ça... mmh. Tout le monde, mais on regarde ailleurs, c'est comme ça. Bon, bref. Donc, j'ai dit, bah, écoute, tu sais, la veille du bac, il m'a menacé d'un fusil de chasse, par exemple.
Et là, il répond quoi?
Ben, rien.
Oh là.
Ben, rien.
Et
il sait,
solide,
mais il ne sait pas.
Il faut être solide.
Il sait, mais il ne sait pas. C'est tellement facile. Bon, il faut dire que mon oncle était, souffrait de l'alcoolisme à l'époque. Hein. Mmh. Ils étaient copains de bar, hein, tous les deux.
Oui, voilà.
Donc, bon, mais voilà. Quand... Puis je veux dire, quand quelqu'un vous hait à ce point-là, je ne vois pas... Alors oui, c'était compliqué, enfant, de me dire que mon père me déteste. C'est difficile.
Bon, je ne suis pas sûre qu'il vous déteste, vous. Je crois qu'il se déteste lui d'abord.
Peut-être.
C'est souvent comme ça que ça commence.
À ce moment-là, moi, je ne savais pas encore que ça n'était pas mon père. Alors, il avait bien fait des petites allusions. Par exemple, je me souviens, adolescent, le plus jeune, je ne sais plus, j'avais peut-être 13 ans, il m'a dit « Regarde dans le dictionnaire la définition de bâtard. »
Ah,
c'est vrai. Bah, bon, c'était que des trucs comme ça. C'était à longueur de temps, ouais. Donc ensuite, je suis parti chez ma tante maternelle.
Mmh.
Et puis, c'est elle qui m'a fait comprendre que c'était mon père. Quoi. Donc, je suis revenu, j'ai posé la question à ma mère. Ma mère avait très peur que je m'emporte contre elle. Au contraire, ça m'a soulagé.
Je veux dire, c'est presque une libération pour vous.
Oui, ça m'a soulagé. Je me suis dit, ah, mais c'est pas mon père, d'accord. Enfin, non seulement tout s'explique, et je n'ai plus à culpabiliser... de le détester à ce point-là.
Mmh.
Parce que je suis désolé, ça, à ce niveau-là, c'était plus possible. Voilà. Il a certainement souffert, comme vous dites, etc. Mais là, c'était trop. C'était...
Non, mais une fois de plus, hein, quand on cherche à comprendre, ça explique. Ça ne veut pas forcément dire que ça excuse. Ça, c'est deux chemins différents.
Oui. Et donc voilà. Donc, c'est vrai que ça ouvre cette boîte... Donc je vous dis, moi j'ai essayé de partir sur d'autres bases. Pourquoi ça fait 10 ans? Il y a 10 ans de ça, j'ai un oncle maternel qui s'est suicidé. Voilà. un monsieur très gentil, qui était très apprécié. Et justement, les gens disaient, mais voilà, il était gentil, il n'avait jamais un mot plus haut que l'autre, mais c'était le problème.
Il a tout gardé à l'intérieur.
Et oui, c'était le problème parce que, ben, enfants, c'est pareil, ils ont souffert. Voilà, de la part de leur propre père et de la famille, du côté du père. Enfin bon, ça serait trop long à expliquer, mais on leur a fait croire que leur mère était morte. Enfin, vous voyez un peu.
Mon Dieu, que de violence.
Ah oui, enfin, ils se sont retrouvés au bled, hein, au Maghreb, parce que ma grand-mère maternelle a pris ma mère, ma tante et le plus jeune des enfants sous le bras, puis elle est partie parce que c'était de plus en plus violent. Voilà. Donc, ben, mon grand-père, ben, lui, s'est dit, je vais retourner au bled me marier, me retrouver une femme. Donc, le plus simple, c'est de dire que, ben, elle est morte, que leur mère est morte. Là-bas, ben, ils ont été maltraités. C'est à peine si on leur donnait à manger, voilà, parce que c'était les enfants d'une femme qui avait, pour ceux qui savaient, qui avait abandonné et que ça ne se fait pas en tant que musulmane, Enfin, moi, je précise, je suis athée, donc c'est réglé. Je précise parce que voilà, c'est pareil. Là,
c'est oui, c'est pas un problème de religion, là, en l'occurrence.
Non, parce que là, avec ma grand-mère, enfin, bon, ça n'a jamais été une manigato. Et elle n'a jamais eu de relation particulière avec aucun de ses petits enfants. Je veux dire, c'est pas une exception. La non-relation avec ma grand-mère maternelle n'est pas une exception. C'est comme ça. C'est une femme qui a pas la patience avec les enfants, ni avec les animaux de compagnie, ni non. C'est pas son truc. Hein, les relations humaines, c'est comme ça.
Oui. Donc vous avez commencé l'émission en parlant de pardon. Il s'agit de pardonner quoi à qui, alors, finalement? Parce qu'il y a tellement de choses là, dans votre histoire.
Ben oui, c'est-à-dire que le plus simple, parce que je pensais vraiment, mais je pense à mettre un petit peu détaché, je ne dis pas complètement, mais et comme vous l'avez souvent dit, parce que je suis un auditeur assidu, la mémoire émotionnelle ne vieillit pas.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'intellectuellement, vous avez compris beaucoup de choses.
Voilà.
Mais émotionnellement, ça reste encore difficile.
Ah, tout est ressorti. Ouais. Alors, intellectuellement, je me dis le plus simple, c'est une discussion que j'avais eue avec une de mes sœurs, c'est d'oublier.
Voilà, si seulement il y avait un bouton.
Exactement. Comme j'ai dit à cette sœur-là, qui elle-même a écrit un petit bouquin à compte d'auteur, qui s'appelle « L'œil de la colère », où justement elle parle de notre enfance. Et je lui ai dit, mais tu as quand même oublié ce que tu as écrit, parce que ce que tu as écrit, moi je le comprends à 100%. J'ai dit, moi j'aimerais bien, mais ça ne m'est pas permis, voilà. Si quelqu'un a la recette, alors là, écoutez.
Mais est-ce que vous faites, Vincent, un amalgame entre oublier et pardonner?
Non, je ne fais pas un amalgame, c'est-à-dire que... Le plus simple, ça serait d'aller trouver ma grand-mère, voilà, le peu de temps qui lui reste à vivre, vous voyez. Ça serait en termes d'énergie, en termes de... Vous voyez ce que je veux dire? Psychologiquement, ça serait le plus simple.
Pour l'avoir, pour lui dire quoi?
Voilà, pour être juste là, voilà, juste être présent.
Alors, je vais reformuler ma question. Avec quelle intention? Dans votre cœur à vous?
Ah non, aucune, mais j'en suis même pas capable. J'en suis même pas. Et en plus, je vais, entre parenthèses, je n'oublie pas votre question. Hein. La résidence où elle vit, dans la même résidence où elle vit, elle a un de ses fils, et ça fait 10 ans qu'il ne lui adresse pas la parole.
Donc c'est un de vos oncles, si je comprends bien.
C'est le même oncle qui m'a dit « Pourquoi tu n'aimes pas ton père ?» Et, non, ça fait 10 ans, il habite juste à côté. Et c'est-à-dire que non, j'ai pas de culpabilité là-dessus, j'ai pas envie, mais vu que depuis qu'on m'a annoncé ça, alors ça m'a choqué, bon, elle a 86 ans, mais enfin bon, c'est ok, mais bon, moi je me disais quelques caractères épouvantables qu'elle a, elle vivrait encore plus, un peu plus longtemps.
C'est ce qu'on dit, oui, souvent les... Bon, je restais poli, mais ils vivent plus longtemps que les autres, oui, c'est vrai.
Je pense que vous comprendrez si je vous dis que ça m'arrange pas, que ça se passe maintenant, que je pensais être prêt et puis en fait je suis pas prêt. Ça change. On n'a rien à se dire. Enfin, on n'a pas de. Par rapport à ma grand-mère, il n'y a pas de. Il y a pas de grief, il y a pas de ressentiment. Il y a rien. Il y a rien. Il y a jamais eu de.
Mais votre mère aujourd'hui, elle est toujours là?
Oui. Nous vivons tous là dans la même ville, oui.
Et alors pour elle, vous ressentez quoi?
Ah, de la colère.
Colère encore.
Ah oui, oh, ben, je peux vous donner un exemple. C'est toujours celui que je donne un exemple. Ceux qui ne comprennent pas, ils comprennent très vite. C'est-à-dire que, bon, donc deuxième année de prépa, la fin de l'année, je repasse les écrits. Arrive le jour des résultats. Donc vous imaginez que ce jour-là, était important pour moi et que je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Donc à l'époque, tous les concours, les résultats des concours, ça passait par Internet, et en 95. Bon, ma mère rentre, bon, elle n'est pas rentrée très tard, il devait être 15h, quelque chose comme ça. Et je lui dis, écoute, comme on n'avait pas d'Internet, je lui dis, il faut que tu m'emmènes en ville pour consulter, qu'est-ce que j'ai dit, Internet, le Minitel.
Oui, j'étais en train de calculer en même temps, je me suis dit, il a eu drôlement tôt Internet.
Pardon, le Minitel.
Vous étiez drôlement en avance.
Non, le Minitel, en 95, donc j'avais pas encore 20 ans, j'allais sur mes 20 ans. Eh bien, vous savez ce qu'elle m'a répondu? Non. Oui. Voilà, non, sans explication, sans rien. Alors, je vous apprendrai rien. Je vous dis que les parents, les autres parents, eux, depuis plusieurs jours, ils étaient fébriles.
Bah évidemment.
Non, voilà. Et pourquoi? Voilà, c'est comme ça.
Oui, ça n'intéresse pas, quoi.
Alors, écoutez, voilà. Merci. Voilà, c'est ça. C'est une indifférence.
Et oui, vous en tant qu'enfant, même en tant que grand enfant, vous l'entendez comme je ne l'intéresse pas.
Mais alors, une indifférence, écoutez, mes études, le bac, elle ne m'a jamais demandé, c'est moi-même qui suis allé dire, mais tu ne me demandes pas si ça se passe bien? Elle me dit, mais non, je n'ai pas besoin, je sais que ça se passe bien. Ah bon? Mais quand tu le sais? Alors que moi, j'étais complètement stressé. Que mon ex-beau-père me menait une vie tellement pas possible que j'en avais presque un trou à l'estomac, enfin bon, bref.
Vous savez ce que ça m'inspire? Moi, je comprends, hein, bien sûr, que chez vous, ça inspire de la colère. Moi, ça m'inspire beaucoup de pitié pour cette femme. C'est comme si elle avait eu le cœur complètement sec.
Ah, mais c'est ça. C'est ça. Vous voyez, même, moi, je n'ose même pas le dire, mais c'est tellement vrai.
C'est une femme vide.
Mais c'est tellement vrai. Et alors, c'est fou, parce que je vous dis, je me suis construite à l'opposé de mon ex-beau-père. Et après avoir fait des efforts, enfin, pas fait des efforts, mais après avoir tenté d'avoir la mère que je rêvais d'avoir, bon, j'étais fou. C'est peut-être mon côté névrosé, mais...
Ça ne marche jamais, je ne vais pas vous faire de peine, mais non. On est nombreux à avoir essayé, ça ne marche pas.
Bon, ça ne marche pas. Je me suis dit, bon, bah, c'est comme ça, et elle est comme ça, et du coup, j'ai perdu le fil. Et du coup, je me suis mis à me construire en opposition à elle-même, parce que moi aussi, je me suis surpris avoir des réactions. Bon, déjà à 20 ans, vous imaginez que j'étais un handicapé social complet. Alors, mais d'une maladresse, mais je ne savais pas, moi.
Vous étiez en mode survie depuis tellement longtemps.
Oui. Écoutez, je vous remercie parce que vous avez absolument compris. J'étais en mode survie, moi. Et on me disait, voilà, c'est le concours vétérinaire, c'est les meilleurs qui survivent. Donc, il n'y avait pas d'affect, il n'y avait pas de... sauf que j'ai rencontré des gens, j'ai élargi mon horizon, je suis tombé amoureux, j'ai découvert d'autres familles, d'autres grand-mères, d'autres pères, d'autres mères, et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres façons, et qu'elles étaient nombreuses, qu'elles étaient beaucoup plus nombreuses d'ailleurs, et moi-même, dans mon discours, ma façon, j'ai retrouvé des choses de ma propre mère, des façons sèches de parler, de répondre.
Et oui, quand on a un point de comparaison, là, on comprend d'un coup.
Voilà, de me montrer indifférent, et j'ai dit, c'est plus possible. Donc, du coup, je suis devenu, parfois, ben, je suis une sensible et empathique, parfois trop.
Oui, c'est logique aussi. Le problème quand on se construit en opposition à quelqu'un, c'est qu'on n'est pas libre non plus dans son schéma de construction.
Ben non.
On ne devient pas qui on veut être, on devient qui on ne veut pas être.
Voilà. Voilà. C'est le problème qui m'a occupé ces dernières années, à me dire, mais en fait, j'ai agi en opposition.
En contre, donc, ben oui.
Voilà, contre. Mais oui, c'est ça.
Pas pour vous, mais contre elle.
Voilà.
Donc contre ses valeurs, elle, en tout cas, ou ses non-valeurs.
Ouais. C'est une indifférence. Enfin, un autre exemple, j'avais une petite chatte qui a vécu 20 ans, c'est une chatte gouttière. Hein.
Mm-hmm.
Alors, bon, mais j'étais très attaché parce que voilà, c'était ma bulle d'air. Hein. Et c'était dans 2009, donc j'appelle ma mère. Bon, c'est pas quelqu'un qui appelle tout le temps, vous savez, loin de là. Si vous ne l'appelez pas, elle n'appelle pas. Et je dis, au fait, comment va la minette? Je ne suis pas allé chercher très loin pour le moment. Elle me dit, mais elle est morte. Je lui dis, mais elle est morte quand? Oh, mais ça fait longtemps. Et bien, vous savez quoi? Je lui dis, eh bien, écoute, je reconnais bien ta délicatesse. Et j'ai raccroché.
Oui, il n'y a rien à en tirer, c'est un mur.
Ah oui, non, j'ai raccroché, j'ai dit, bon, ben là, j'ai dit non, là, c'est pas.
Mais j'aimerais bien, Vincent, qu'on revienne au sujet du pardon, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, ça. Vous avez mentionné ça au départ, et c'est-à-dire que vous avez envisagé d'essayer de pardonner à qui? C'est ça que j'ai pas bien compris dans votre histoire.
À ma mère.
Ah oui, c'est ça, c'est plutôt votre mère.
Parce qu'elle m'a pas demandé pardon. Ça, je lui ai dit.
Alors voilà.
Parce que dans son discours, il y a un truc qui est fou. C'est que les enfants sont responsables, mais quand nous avons été des jeunes adultes, elle nous a traités comme des enfants. Alors, il y a un truc qui... va pas, là.
Oh, je crois qu'il y a plus d'un truc qui va pas, qui vont pas chez elle. Enfin, bon.
Moi, je lui disais, mais nous étions des enfants. Ouais. Des fois, elle me sentait chaud, mais avec du reproche. Avec un ton plein de reproche. Je dis, mais j'étais un enfant. J'ai rien fait de grave, je vous rassure, hein. C'était des broutilles, je chahutais un petit peu à l'école, parce qu'à la maison, c'était tellement l'enfer. À l'école, j'ai besoin de rire, alors je rigolais, oui, pour tout
n'importe quoi. J'ai bien compris, Vincent, le problème ne vient pas de vous, mais d'elle.
Oui. Donc...
Et vous savez, souvent, quand les gens me disent « j'arrive pas à lui demander pardon », la première question que je pose, c'est ça. Mais est-ce que l'autre vous a demandé pardon? Voilà. Pardon, j'arrive pas à lui pardonner. Et est-ce que l'autre vous a demandé pardon? Là, vous me dites, elle ne m'a jamais demandé pardon.
Le hasard fait que je tombe sur vous parce que vous êtes de retour de vacances. Et c'est très bien. Parce que je sais que plusieurs fois, vous avez traité ce thème-là.
Oh, pas si souvent, quand même. Hein.
Ben, bon, en tout cas, quelques fois. À chaque fois, j'étais là.
Oui, c'est ça.
Et c'est vrai que moi aussi, ça m'intéresse parce que ça me parle, parce que ça me touche de près. Parce que ma vie serait tellement plus simple.
Alors voilà, il y a deux choses. Il y a une chose importante à comprendre, elle est étymologique. Pardonner, comme son nom l'indique, c'est donner sa part à l'autre aussi.
Oui.
Et oui, il faut réfléchir à ça. C'est pas.
Ah, moi, c'est vrai que ça. C'est vrai que j'avais pas suivi ça la dernière fois. Oui, c'est vrai.
C'est intéressant aussi de se dire ça. Pardonner, c'est ne pas garder tout pour soi.
D'accord.
Donner sa part à l'autre. Moi, j'aime bien cette réflexion là.
D'accord, oui, effectivement.
La deuxième, c'est de comprendre que on est très très loin du pardon biblique et du pardon « je tends une joue quand on m'a giflé, je tends l'autre ». C'est juste se dire que tant qu'on n'arrive pas à pardonner à quelqu'un, finalement c'est à soi qu'on fait du mal. Parce que l'autre, surtout en l'occurrence avec votre mère, l'autre il s'en fiche complètement.
Et
c'est à soi qu'on fait mal tant qu'on ne pardonne pas. Et finalement, le jour où on arrive à pardonner vraiment, pas en semblant, pas intellectuellement, mais vraiment avec le cœur, alors on se libère du poids le plus lourd qu'on peut porter dans sa vie.
D'accord.
Pardonner, c'est comme si d'un seul coup on devenait grand, on devenait mature, on se disait, bon, écoute, voilà, en se parlant à soi-même, finalement, je m'autorise à me libérer de ce qui, moi, m'empêche d'être heureux. Parce que tant qu'on n'a pas pardonné, c'est comme si on a une toute petite part de nous qui espère encore que ça va changer.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que moi, j'ai voulu intellectualiser la chose alors que c'est pas
bah, c'est une bouée de secours l'intellect. On se dit si j'arrive à analyser les choses, à les comprendre, ça ira mieux. Malheureusement, ça suffit pas.
Parce que bon, c'est par rapport à parce que mes sœurs elles comprennent pas parce que la plupart ben, elles ont pas tellement subi des violences de la part de leur père déjà pour commencer et tant mieux. Tant mieux. Et aussi elles étaient petites. Il n'y a que la plus grande, là, qui a 3 ans de moins que moi, qui est la pauvre, elle a pris, elle a tout intériorisé.
Mais en tout cas, bref. Réfléchissez à ça. Souvent, quand on n'arrive pas à pardonner, quand on n'arrive pas à franchir le pas, c'est probablement qu'on attend encore quelque chose et qu'on espère encore. Et malheureusement, souvent, on espère quelque chose qui ne viendra pas.
Alors, la phrase que vous venez de prononcer, vous voyez ? On attend quelque chose qui ne viendra pas. Pour moi, elle me parle parce que quand je me dis mais tu es vraiment névrosée parce que tu attends des choses qui ne vont pas arriver.
Ah, ça n'a rien à voir avec une névrose. Sinon, on serait tous névrosés, Vincent.
Non, mais c'est en me moquant de moi.
C'est juste qu'on a tous à l'intérieur de nous un enfant, un petit enfant, qui aimerait tellement avoir le papa ou la maman qu'il aurait voulu avoir. Une vraie maman, un vrai papa. On l'a tous. Cet enfant-là, on l'a tous à l'intérieur de nous, vous savez ça.
Oui, mais c'est l'enfant justement qui ne veut pas pardonner.
J'ai lu il n'y a pas longtemps une très jolie phrase qui disait attendez, de mémoire, l'enfant, c'est le sol sur lequel nous marcherons toute notre vie.
Ah oui, c'est joli.
Elle est belle. Hein.
Mais si je peux me permettre, si malheureusement parmi vos auditeurs. Parce que ça n'attendait pas, quoi. N'attendez pas. Je ne vais pas refaire le passé, mais je pense qu'il aurait fallu, après le bac, voilà, faire une petite pause, me faire aider par des thérapeutes, je ne sais pas, mais. Parce que bon, après, j'étais dans une spirale, quoi. Le bac, la prépa, l'école.
Mais sur le plan professionnel, vous avez réussi ça, vous êtes vétérinaire.
Oui, mais. Oui, mais je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'arrive à 46 ans et j'ai pas de modèle. Je ne sais pas si je suis claire.
Si, oh ben si non, j'ai l'impression que ce qui vous manque, c'est presque quelqu'un qui vous félicite. Comme si vous ne vous rendiez pas compte que vous avez fait de super études dans un contexte absolument épouvantable, que vous avez réussi un métier qui n'est pas accessible à tout le monde, que vous avez réussi tout simplement et que personne ne vous l'a dit. Personne ne vous a dit bravo.
Ah ben ça, c'est sûr que les personnes les plus importantes à l'époque ne m'ont pas dit, oui, bien sûr.
Eh oui.
Je ne sais pas.
Et si la personne la plus importante, c'était vous ?
Ben ça dépend des jours. C'est-à-dire que, c'est vraiment cette histoire-là. C'est vraiment, quand on m'a annoncé ce qui se passe pour ma grand-mère maternelle... J'ai plus de visibilité, en fait. Ça fait une semaine, je...
Qu'est-ce qui vous fait peur ?
Non, mais c'est ça. En fait, j'ai peur, je ne sais pas. Pourtant, j'ai creusé la question. Alors, je sais que je n'ai pas peur qu'on m'en veuille. Je n'ai pas peur des reproches. Parce qu'à vrai dire, quand mon oncle, l'oncle dont je vous ai parlé, s'est suicidé, je me suis bien promis maintenant que si j'avais quelque chose à dire, je le dirais, quoi. De pas retourner les choses contre moi-même. Je suis d'accord avec vous, l'avis des autres, bon, ça, l'opinion des autres, vous savez. J'écoute, mais pas plus que ça. Je le ressens qu'il y a une peur. Mais alors de quoi ? Peut-être de laisser mes sœurs, je ne sais pas.
Alors, si on prenait la question dans l'autre sens, de quoi auriez-vous le plus envie ? Parce que vous savez que je dis souvent ça, derrière les peurs, il y a des envies qui se cachent. Si on trouve l'envie, on trouvera la peur.
Là, de quoi j'ai le plus envie ?
Pour aller mieux, qu'est-ce qu'il vous faudrait vraiment maintenant ?
J'aimerais que mes sœurs me disent un peu le fond des choses, quoi.
Oui, donc on en revient aux sœurs, là.
Parce qu'elles... Il y a une distance qui s'est faite, aucun reproche.
Une incompréhension, vous pensez ?
Mais, ben, depuis que j'ai pris des distances avec ma mère, oui, il y a une distance qui s'est faite. Il n'y a aucun reproche, on ne s'est jamais discuté, il n'y a jamais eu de violence entre nous. Ça, de toute façon, c'est hors de question. Je me serais éloigné, de toute façon, de peur de reproduire, voilà. Mais oui, il y a une distance qui s'est faite, alors que bon, moi j'ai toujours été quand même très présent pour elle. Et oui, voilà.
Et est-ce que cette dame dont vous parlez, cette grand-mère, elle est en fin de vie, là, si je comprends bien?
Oui, oui.
Et si son départ était l'occasion de réunir un peu cette fratrie?
C'est-à-dire, fratrie?
Ben, vos sœurs et vous?
Ben, j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais officiellement, il n'y a rien qui nous a séparés, vous comprenez?
Non, mais quand je dis réunir, c'est peut-être une occasion de se parler, mettre des mots. Je crois que vous avez besoin, un grand besoin de mettre des mots sur tout ça et d'être reconnu.
Oui, alors moi, ça, je le fais facilement. À chacune de mes sœurs, j'ai parlé, je leur ai expliqué, parce qu'elles étaient très en colère contre moi, parce que bon, ma mère a joué la carte de la victime, alors que je lui parlais normalement. Je n'ai pas crié, au contraire, j'étais très posé. Mais bon, elles ont pris le pas. Enfin, voilà, au vu de ce qu'elle racontait notre mère, bon, bah, elles ont pris son parti. Moi, j'aurais expliqué ce qui s'est passé, donc elles ont compris. Mm-hmm. J'aurais dit exactement ce qui s'est dit, etc. Voilà, donc bon, mais voilà, il y a une distance qui s'est faite sans. Voilà, on se voit. Moi, je sais, je suis capable, voilà, de parler, d'écouter. Mais ça, je sens qu'il y a des choses. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais elles ne le font jamais. Et de toute façon, si, de façon objective, je n'ai rien à me reprocher vis-à-vis de mes sœurs. Au contraire. Alors,
j'allais vous poser la question, quand on parle de pardon, ça peut paraître un peu paradoxal. Mais quelquefois, il est intéressant de se demander ce qu'on aurait à se pardonner à soi-même. Quelquefois, c'est de se dire, peut-être j'aurais pas dû dire ça, peut-être j'aurais pas dû faire ça, peut-être j'aurais pas dû réagir comme ça. Et quelquefois, c'est quand on fait un travail sur soi, c'est assez surprenant d'ailleurs, ça, de se rendre compte qu'on a aussi un pardon à donner à soi-même. Et là aussi, ça libère de beaucoup de choses.
Alors, moi, en tout cas, bon, par rapport à mes soeurs, non, franchement, je n'ai rien à me reprocher. Par contre, plus jeune, je me suis mal comporté. Enfin, dans tous les... Parce que vraiment, j'étais un handicapé, donc avec le recul, je sais que je me suis mal comporté, que ce soit...
Mais attention à ce que je dis souvent, avec le recul, c'est facile. Parce qu'avec le recul, on a une maturité des informations qu'on n'avait pas à l'époque.
Ah, bon, bah alors...
Et oui. C'est facile, 10 ou 20 ans après, de dire « j'aurais pas dû faire ça ». Parce qu'à l'époque où on l'a fait, on n'avait pas les informations qu'on a maintenant.
Bon, bah alors, donc non, enfin, honnêtement, non, parce que j'ai vraiment tellement le souci, parfois trop, des autres. Vous voyez, même dans la rue, même...
Ben c'est peut-être ça qu'il faut vous pardonner à vous-même.
C'est-à-dire ?
Et ben c'était lâcher prise là-dessus.
De faire trop ?
Exactement. Vous savez qu'en faisant trop, c'est aussi de l'amour que vous cherchez. Hein. C'est l'amour que vous n'avez pas eu.
Je ne sais pas ce que c'est. Hein.
Mais oui.
Je ne sais pas ce que c'est, mais... Je ne sais pas si c'est un lien, pendant très longtemps, j'ai eu des tocs, hein, des tocs de vérification.
Ça, oui, on pourrait en parler longtemps, mais évidemment, bien sûr, c'est un lien.
Je vous dis ça, c'est-à-dire qu'arriver dans la rue, avec une peur très consciente de... Je ne sais pas, de alors que ça ne s'est jamais produit, mais de me comporter bizarrement, de perdre le contrôle, c'est surtout ça.
Le contrôle, le fameux contrôle, ben oui. Bien sûr.
De perdre le contrôle, voilà.
Parce que dans cette famille, dans votre famille, tout le monde a perdu le contrôle. Le père n'a pas été capable de jouer son rôle de père, la mère non plus. Et vous avez été un petit enfant perdu qui ne savait plus par où contrôler les choses.
Voilà, donc c'est vrai que ça a été une peur plutôt consciente.
Vous entendez la petite musique, Vincent, ce sont les informations qui vont arriver.
Oui.
J'aimerais juste qu'on se quitte avec vraiment cette réflexion sur le mot pardonner. Donner la part à l'autre,
avec
justement.
Plaisir.
Rien ne vient de vous dans cette histoire.
Yes. Et je vous dis, ça dépend des jours. ça dépend des jours. Il y a des jours où c'est évident, il y a des jours où ça l'est un peu moins.
Et surtout, pensez bien que... Enfin, comment vous dire ça rapidement, c'est toujours difficile, mais... Elle a fait ce qu'elle a pu, votre mère et votre père aussi, avec ce qu'ils avaient. Malheureusement, la vie ne leur a pas donné grand-chose, ils étaient secs. Et c'est vous qui avez pris. Mais ça ne dit rien sur vous, et ça n'enlève rien à votre valeur à vous, surtout. Gardez ça en tête. Leur comportement à eux n'enlève rien à votre valeur à vous, et vous l'avez prouvé.
Bon. Hein ? C'est gentil, mais c'est, je vous dis, ça dépend des jours. C'est...
On pourrait se parler longtemps, mais j'ai plus le temps ce soir, Vincent. Rappelez-moi un soir, si vous voulez, d'accord ?
Oui, bon, c'est comme ça.
Merci de votre appel, je vous embrasse.
Merci beaucoup, au revoir.
À bientôt, Vincent.
La Libre Antenne d'Europe 1, Sabine Marin accompagne vos nuits.
Et comme promis, c'est Marie que j'accueille maintenant. Bonsoir Marie.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue à vous.
Merci.
Alors, racontez-moi.
Je vais essayer d'être précise. Je vous appelle suite au décès de quelqu'un qui m'était proche, puisque ça a été un compagnon avec qui j'ai vécu pendant 15 ans.
Oui.
Il y a 4 ans, j'ai trouvé que notre vie de couple n'avait plus de sens et que c'était plus possible qu'on reste ensemble. Alors, pour moi, c'était plus supportable, donc j'ai préféré qu'on se sépare.
Qu'est-ce que vous appelez plus de sens pour vous ? Qu'est-ce qui n'allait plus, d'après vous ? Qu'est-ce qui vous est du mal ?
Il n'y avait plus rien qui allait. Déjà, on n'avait plus de vie sexuelle depuis des années.
Oui.
Et ça, j'en souffrais beaucoup. J'ai essayé beaucoup de choses pour relancer, mais j'avais l'impression que je ne lui plaisais pas. Donc, j'ai beaucoup maigri pour être très, très mince, avoir un look mannequin. Ça ne marchait pas. J'ai changé de style, j'ai essayé beaucoup de choses.
Comme si c'était forcément votre faute.
Oui, je pensais vraiment que ça venait de moi. Donc, j'ai tout forcé de mon côté, mais depuis le début de notre relation, c'est quelqu'un qui sexuellement avait des difficultés. Il avait de gros problèmes d'érection, donc ça a toujours été très compliqué, mais bon, je me disais que j'ai pensé que ça venait de moi. Donc il y avait cette partie de notre vie qui avait mal fonctionné au début et qui très vite ça s'est complètement arrêté.
Mmh.
Et puis sur le reste, c'est quelqu'un qui au bout de quelques années ne travaillait plus, n'avait plus de ressources, il s'est retrouvé à ne plus avoir du tout de ressources.
Mais pourquoi ?
Parce qu'il avait arrêté de travailler et puis au bout de peu de temps, il s'est retrouvé sans rien.
Non, j'ai bien compris, mais pourquoi il a arrêté de travailler ? Il y avait une raison ?
Il était travailleur indépendant, il était à son compte. Et puis, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais au bout d'un moment, il disait qu'il n'avait plus de clients, donc il a arrêté de travailler, il n'avait plus de boulot.
Mmh.
Donc, moi, il fallait que je travaille pour deux. Et puis, j'avais une fille qui était jeune et qui faisait de grandes études, donc il fallait aussi financer tout ça. Donc
là aussi, c'est sur vos épaules tout ça, quoi.
Donc moi, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup pendant toutes ces années. Je travaillais 6 jours par semaine. Et à côté de ça, j'avais un homme qui était à la maison, dans le canapé, qui regardait des dessins animés et qui ne cherchait pas à bouger, à faire quoi que ce soit et même pas faire une demande de RSA, rien.
C'est lourd, hein ?
Difficile.
Ouais.
C'était difficile, d'autant que dès le début de la relation, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et quand on s'est mis en couple ensemble, au bout de 3 mois, je lui ai dit « Écoute, ça ne va pas être possible parce qu'on n'a pas du tout les mêmes envies, les mêmes valeurs, les mêmes aspirations. »
Et pourtant, qu'est-ce qui vous a plu chez lui au départ ?
Une certaine forme de tendresse.
Ça vous avait manqué, ça, avant ?
Oh, mais j'en avais pas eu du tout. J'en avais pas eu du tout.
Et oui, donc c'était peut-être plus de l'attachement que de l'amour avec lui.
Oui, et puis ce que j'avais apprécié, c'est que c'était un homme qui tenait ses promesses. Parce que bon, j'avais rencontré, moi j'étais célibataire, je rencontrais des hommes qui me disaient on fera ci, on fera ça. Et puis là, je tombe sur un homme qui me fait fondre quand il me prend dans ses bras et qui me dit oh ben on va partir en week-end, on ira voir les châteaux de la Loire. Et puis un mois après, on y était. Et puis il me dit on ira en Italie. Et puis 6 mois après, on y allait.
Donc il fait ce qu'il dit, quoi. Ça c'est rassurant.
Oui, ça m'a rassurée, ça m'a réconfortée. Donc j'ai continué, même si je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas et que c'était un homme qui était très autoritaire. Il décidait et il fallait suivre. Et quand je dis qu'au bout de 3 mois, j'ai voulu arrêter, c'est parce que je me suis retrouvée... au bout de 3 mois, Il devait aller participer à un week-end avec des amis. C'était un gros week-end de festa. Et moi, j'ai passé un examen important le lundi. Et moi, je lui ai dit, bah, écoute, le week-end avec tes copains, je ne vais pas y aller. Parce que moi, tu vois, cet examen, il est important. Je le prépare depuis un an. Donc moi, j'avais plus de 40 ans. J'avais arrêté de travailler un an pour reprendre des études, passer un examen. Je dis, moi, c'est mon examen le lundi, je ne vais pas aller faire la fiesta tout le week-end. Eh bien, il est rentré dans une colère, il n'a rien voulu savoir. Il m'a dit, tu viens. Donc moi, les enfants, fallait tout le monde vienne, il n'y avait pas à discuter. Et j'ai un peu loupé mon examen.
Un peu ou beaucoup?
Ben, j'ai obtenu mon examen, mais avec une mention bien, alors que je maîtrisais mon sujet vraiment à fond et que, en étant un peu reposée, parce qu'on est quand même rentré le dimanche de Nice, on a roulé toute la nuit pour rentrer et tout, et je suis arrivée à l'examen sur les genoux. Et je me dis, en étant reposée, en étant bien, j'aurais eu une mention très bien au moins, quoi.
Mais quand vous dites que c'était un homme autoritaire, est-ce qu'il était violent, au moins par les mots?
Je ne saurais pas dire. Moi, j'avais vécu avec un homme violent auparavant et je me suis retrouvée, sans pour autant qu'il ait jamais levé la main sur moi, je n'osais pas le quitter parce que j'avais peur qu'il soit violent. Et puis, il y a 4 ans et demi, à force de chaque jour pendant des années me dire... Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Il y a eu un jour, j'ai fini par lui dire. Et à ce moment-là, je pensais que notre relation, ça serait complètement fini, qu'il serait content d'être débarrassé de moi et qu'on ne se verrait plus.
Pardon, mais vous l'avez dit ça comment? En face?
Oui.
Et avec quelle explication, quel mot?
Je lui disais que ça n'allait plus, que c'était plus possible. Je me souviens plus exactement comment est-ce que j'ai dit les choses, parce que j'avais tellement peur. On avait une relation qui s'était beaucoup distendue, dans la mesure où on vivait dans deux maisons. En fait, on avait une résidence principale, une résidence secondaire. Lui s'était installé dans la résidence secondaire parce qu'il ne voulait plus vivre à Paris. Et ce qui fait qu'on se voyait les week-ends dans la résidence secondaire. Et moi, j'avais l'obligation de venir tous les week-ends pour passer les week-ends avec lui. Et un beau jour, je lui ai dit, c'est fini, je ne viendrai plus, il n'y aura plus de week-end. Moi, je reste ma vie à Paris avec mes enfants.
Et là, il réagit comment, là?
Il s'est mis en colère, il a pris ce qu'il avait sous la main, il a cassé, il a commencé à donner des coups de pied dans les objets dans la maison.
Ah oui, donc ça c'est... Oui, là on dépasse la violence verbale. Hein.
Oui, mais il s'en est pas pris à moi.
Hein. Oui, mais quand on est en face d'un homme comme ça, ça fait peur.
Et moi je me disais, c'est bon, c'est fini. Et donc ça c'était il y a 4 ans. Et à partir du moment où il y a eu cette séparation, pendant quelques mois, on ne s'est pas vu. Et puis, il a fini par revenir dans ma vie parce qu'il était parti en laissant plein de choses chez moi. Donc, j'ai dit, faut que tu passes chercher tes affaires. Et puis, il est revenu. Et puis, tiens, il faudrait que je te donne un coup de main pour ça. Et je te bricole et je fais des trucs. Et, Et il s'est mis à faire des choses qu'il ne faisait pas quand on vivait ensemble, à se rendre disponible pour moi, à me rendre service, à être prêt. Il faisait, à partir de la séparation, tout ce que je voulais qu'il fasse.
Tout ce que vous auriez voulu avant, oui. Ben oui.
Voilà.
Et là, ça vous a fait quoi ? Vous êtes sentie comment ?
Au début, ça m'a laissé perplexe. Je ne comprenais pas.
Ben oui.
Je me disais, quand on vivait ensemble, si j'avais un pépin au bout de la rue, il ne bougeait pas pour m'aider. Et quand on s'est séparés, mais je l'ai appelé à 400 km de chez moi en lui disant « J'ai un souci, je suis en panne. » Il a sauté dans ses chaussures, il a même oublié de prendre son téléphone et il s'est précipité pour venir m'aider. Et je pouvais tout lui demander. Il était prêt, là, pour moi, ces dernières années.
Mais vous avez interprété ça comment, alors, à ce moment-là ?
J'ai pas su l'interpréter.
Ouais. Vous n'en avez pas parlé avec lui ?
Non.
Non. Sujet fragile.
Oui, parce que moi, je me sentais retombée amoureuse de lui. Et en même temps, j'avais très peur de revivre avec lui et que ça recommence comme avant.
Bah, c'est-à-dire que la base n'était pas très stable. Hein.
Alors, moi, ce que j'avais peur, c'était que j'avais envie de lui demander qu'on revive ensemble, mais j'avais tellement peur qu'il m'envoie promener et qu'il me dise des choses qui me blessent que c'est resté un silence entre nous et je lui ai jamais, ça n'a jamais abouti. J'avais l'impression qu'il le souhaitait. Moi, je le voulais. J'avais peur que ça recommence comme avant. C'était compliqué. Je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai laissé le sujet en suspens. Et en fait, il venait. Il passait la journée, il déjeunait avec moi, il restait là, il bricolait. On s'est mis à discuter de tout et de rien, beaucoup plus qu'avant. On est devenus de très, très, très bons amis, amis un peu plus, quoi. Et donc, là où la chose est compliquée, c'est que cet homme est décédé il y a quelques jours. Et suite à son décès, donc j'ai tout ça qui reste en suspens. Que je ne sais pas ce qu'il pensait, je ne sais pas ce qu'il voulait, donc ça reste... Et je ne sais pas comment interpréter tout ce qu'il a fait ces dernières années pour moi.
Et moi, pardon de vous couper, mais vous prenez le mot juste, quoi que vous puissiez penser, ce ne sera que de l'interprétation. C'est ça le problème.
Oui, maintenant qu'il est plus là, je n'aurai pas de réponse. Et je pensais que... J'étais sortie de sa vie, que je savais que c'était quelqu'un qui ne pouvait pas vivre seul, donc je me doutais qu'il y avait une autre femme dans sa vie. Et puis, c'est aussi ça, je me disais, s'il a trouvé quelqu'un d'autre, c'est forcément une femme qui lui correspond beaucoup mieux que moi.
Ben, il ne serait pas revenu.
Ben, je ne sais pas, mais j'ai rien compris. Je ne sais pas.
Il n'aurait pas été disponible autant pour vous, ça ne me paraîtrait pas très logique, en tout cas.
Ben... Après son décès, j'ai su qu'il avait une autre femme.
Ah, mais depuis combien de temps ?
Alors, c'est là où c'est extrêmement compliqué. Quand il est décédé, donc c'est quelqu'un qui a été hospitalisé.
Qu'est-ce qui lui est arrivé d'ailleurs ?
Il est mort d'un cancer.
Ah, donc il le savait ?
Non, apparemment, il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Je ne sais pas s'il avait des soupçons, mais il était malade depuis très longtemps et son état de santé était devenu... il savait... Je pense qu'il savait qu'il allait mourir. Je pense qu'il savait qu'il allait mourir parce que je l'ai vu 3 jours avant sa mort. Et il m'a serré, il m'a embrassé comme... On ne le faisait plus puisqu'on avait une relation amicale plus, donc c'est pas des choses que l'on faisait, on se risquait pas à faire ça.
Effectivement, ça peut expliquer ceci, peut expliquer cela.
Oui.
Quand on sait que la vie va se terminer, il y a peut-être des choses qu'on voit différemment.
Et ce que je me reproche, c'est de ne pas avoir réagi à ça sur le coup. Je ne l'ai pas interprété sur le coup, ça m'a interpellée, j'ai trouvé ça un peu bizarre.
Mais vous étiez sur un fil, Marie, vous étiez... C'est évidemment, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure avec Vincent. C'est facile de dire après coup, j'aurais dû.
Oui, j'ai entendu.
Mais oui, mais c'est tellement ça. C'est trop facile que... parce que c'est vous étiez tellement fragile. Vous avez pris, vous marchez sur des œufs. Vous avez pris ce qu'ils vous donnaient avec bonheur, sans oser dire quoi que ce soit, parce qu'on a l'impression qu'un simple souffle aurait pu tout couper, tout casser à nouveau.
Donc c'était vraiment ça. C'était de se dire c'est fragile, ne touchons à rien, profitons simplement de ces bons moments et sans plus. Et moi je le vois 3 jours avant son décès. Et quand je suis repartie, je me suis dit, il faut que je le prenne à la maison avec moi à nouveau et que je prenne soin de lui parce qu'il va pas tenir. Et 3 jours après, quand j'ai voulu prendre contact, qui répondait pas, c'est là où j'ai appris qu'il était décédé. Et c'est en même temps où j'ai appris que il y avait une autre femme dans sa vie. Enfin. Une femme dans sa vie, puisque je considère que moi, je suis son ex et que je ne suis pas...
Quand vous dites « je l'ai appris », vous l'avez appris comment et par qui ?
Alors, je l'ai appris au moment où j'ai cherché à le joindre. Je cherchais à avoir de ses nouvelles et je voulais le faire hospitaliser. Donc, je l'ai vu. Le lendemain, je lui envoie un message. Il ne me répond pas. J'essaye de l'appeler, ça répond pas. Et le surlendemain, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé quelqu'un qui habitait juste à côté de chez lui, qui est une de nos connaissances, et en lui disant « va voir parce que j'ai pas de nouvelles, j'arrive pas à le joindre, j'ai appelé l'hôpital et tout, il n'est pas à l'hôpital, je comprends pas ce qui se passe ». Et c'est là où j'ai appris qu'il était décédé et qu'il y avait une femme dans la maison avec lui et qui s'est présentée comme étant sa compagne.
Ah. Ouais. Ce qui est, je suis en train de me dire, j'ai déjà entendu des histoires comme ça. C'est pas, ça veut pas forcément dire que c'était vrai. Mais bon, elle s'est présentée comme telle en tout cas.
Alors, elle s'est présentée comme étant sa compagne. Donc, je dirais que j'ai pas tellement réagi à ça. Moi, j'ai réagi au fait qu'il était mort.
Ben oui, ça fait beaucoup de
choses. Culpabilité immense de me dire que si j'avais mieux réagi le dernier jour quand je l'ai vu, quand il ne voulait pas que je parte et que je disais « mais t'es fatiguée, je vais te laisser, là tu vas te reposer » et qu'il me disait « non, mais reste encore un peu, reste encore un peu » et quand je n'ai pas réagi à ça, j'ai eu l'impression que je l'ai pas, que si j'avais réagi, ça ne serait pas arrivé.
Ce qui n'est pas vrai, Marie, vous le savez. Vous savez ce qu'on va faire ? On marque une courte pause, si vous le permettez. Et on va prendre le temps de parler de cette fichue culpabilité, d'accord ?
D'accord.
Prenez le temps de respirer. Prenez un verre d'eau si vous en avez besoin, d'accord ?
D'accord.
Et je vous retrouve tout de suite. Merci.
Merci.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Marie, vous êtes là ?
Oui.
Oui, je vous sens évidemment déjà très touchée par son décès, parce que ça a quelque chose de doublement injuste. Parce que c'est presque au moment où ça allait mieux, où ça, il vous apportait enfin quelque chose qu'il est parti. Et puis en même temps, il y a cette culpabilité dont vous parlez, parce que vous me dites si j'avais fait ça. Mais une fois de plus, je me répète, avec le recul, quand on sait les choses, c'est tellement facile de dire si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Au moment où vous lui avez dit « il faut qu'on se laisse, il faut que je te laisse, tu es trop fatiguée », vous l'avez fait avec une intention extrêmement positive ? Ou je me trompe ?
Oui, mais, il faut dire que la culpabilité, elle est nécessairement très forte parce que c'est un homme qui était...
Je vous entends un peu moins bien, Marie. Vous êtes bougée un peu ?
Ah.
Ah oui, voilà, là c'est mieux.
C'est quelqu'un qui était un homme dynamique, positif, enthousiaste et qui, à partir de notre séparation, a sombré dans la dépression et qui n'a fait que décliner d'année en année. Et je pense que le cancer qu'il a développé, c'est aussi le cancer de plus de vie professionnelle, sa femme qui l'abandonne, les enfants qui l'aiment.
Attendez, Marie, là vous me racontez l'histoire avec le filtre de la culpabilité. Tout à l'heure, vous m'avez quand même dit que c'était quelqu'un d'autoritaire. Avec lequel vous n'aviez aucune relation sexuelle.
Non.
Avec qui vous viviez séparés parce que vous n'aviez plus rien à vous dire. C'est plus la même histoire. Attention à ce que je dis souvent aussi, de ne pas vous raconter l'histoire que vous auriez aimé vivre. Parce oui. que la réalité, elle n'est pas comme vous la dites maintenant. Ce n'est pas l'homme formidable qui a été détruit parce que sa femme est partie. Hein. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé.
Mais c'est un homme qui a sombré dans la dépression parce que je suis partie, parce qu'il n'avait plus de travail. Il y a une conjonction de choses qui ont fait que tous ses amis m'ont dit « mais ça faisait quelques années ». Et puis moi, je le voyais, quoi, qu'il déclinait d'année en année.
Mais oui, mais Marie, si vous êtes partie, c'est parce que vous n'en pouviez plus.
Oui.
Et oui.
Mais là où tout ça me ronge depuis son décès, c'est que cette femme que j'ai trouvée dans la maison avec lui, elle raconte, c'est une chose assez bizarre parce que cette femme s'est rapprochée de moi. Elle veut qu'on soit amis. C'est quelqu'un qui m'a raconté dans les moindres détails la vie qu'elle avait menée avec lui.
Mais depuis combien de temps, selon elle ?
Alors, elle me dit depuis 7 ans. Alors, je lui dis, mais je suis surprise parce que nous ne sommes pas séparés depuis 7 ans. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il la voyait quand moi j'étais absente la semaine, je ne sais pas. Et qui veut qu'on soit proche, qui m'a raconté dans les moindres détails la vie qu'elle avait eue avec lui. Et avec lui, avec elle, il a été un homme, l'homme que moi j'aurais... Il m'aurait donné le 10e de ça, on se serait jamais séparés.
Qu'est-ce qui vous prouve que c'est vrai ?
Écoutez, je ne sais pas, mais je me dis, moi, j'ai passé 15 ans auprès de quelqu'un qui était assez dur avec moi. Et elle a passé quelques années avec un homme qui a été attentionné, doux, gentil, qui la sortait, qui faisait plein de choses.
Marie, c'est ce qu'elle vous dit ? Comment pouvez-vous accorder autant de valeur ou de certitude à quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui débarque comme ça dans la vie de votre ex et qui vous raconte plein de choses ?
Je ne vois pas pourquoi elle mentirait alors.
Parce que vous avez un terrain où vous êtes tellement, vous sentez tellement coupable qu'il suffit simplement de continuer à enfoncer la porte ouverte avec vous. Et peut-être que c'est quelqu'un d'aussi manipulateur et qui l'a senti. Vous trouvez normal qu'elle ait envie de venir amie avec vous comme ça ?
Il faut que je rajoute un élément par rapport à cette femme. On a trouvé cette femme dans la maison et en fait, elle est arrivée dans la maison au moment où il a été hospitalisé. Il semblerait qu'avant, elle venait lui rendre visite de temps en temps, je ne sais pas comment, mais en tout cas, elle ne vivait pas avec lui.
Bon, bah déjà.
Elle-même, ouais. Elle l'a reconnue, ouais. Qu'elle est venue, parce qu'elle habite à, je crois, 250 km ou 300 km de chez lui, et qu'elle venait, et qu'elle est venue quand il a été hospitalisé. Une chose dont je me suis rendu compte, c'est que cette femme, parmi. Moi, je me dis, mais depuis 7 ans qu'il la fréquente, il n'en a parlé à aucun de ses amis.
Ah ben voilà.
Personne ne la connaît. Il avait plein de connaissances et plein d'amis dans la ville où il habitait, mais il n'a fréquenté avec elle aucun de ses copains. Et a priori, ils ont fréquenté 3 ou 4 personnes, mais qui sont des nouvelles connaissances qui s'est fait à au moins 10 de kilomètres de la ville où il habitait.
Ben, pardonnez-moi Marie, mais ça corrobore un peu ce que je vous dis. Hein. Vous savez, la mythomanie, ça existe.
Alors, je suis complètement perdue par rapport à cette femme parce qu'elle est rentrée dans ma vie et elle est collée à moi depuis 2 semaines.
C'est ce que j'allais vous demander. Quand est-ce qu'il est parti, votre ex-compagnon ?
Il est décédé le 11 juillet.
Oui, donc c'est tout récent, c'est tout frais tout ça.
Il est décédé le 11 juillet, donc elle était dans la maison avec lui. Il est décédé, elle n'a prévenu personne. Elle n'a pas appelé son travail, elle avait les coordonnées de son employeur qui prenait des nouvelles tous les jours. Elle n'a pas appelé l'entreprise, elle n'a prévenu personne. Et c'est moi qui, au bout de 2 jours, en ne pouvant pas le joindre, ai fait un pataquès. Et à ce moment-là, on l'a trouvé dans la maison et elle nous a dit « Oh, mais ça fait 2 jours qu'il est mort ».
Non mais vous avouerez, Marie, qu'elle a un comportement extrêmement étrange.
Et d'autant plus étrange qu'elle avait commencé à organiser les obsèques et qu'elle ne voulait pas, il n'y avait pas la famille, il n'y avait personne. Et elle me dit, bah non, on n'a pas les coordonnées, je ne connais pas sa famille, je ne connais personne.
Au bout de sept ans, il y a quand même beaucoup d'incohérences dans son récit.
Ce qui fait que c'est moi qui ai repris les choses en main.
Ce qui paraît plus logique,
ses parents.
Mais oui.
J'ai contacté les parents, j'ai contacté la famille, j'ai tout fait. Et donc, j'avais plus le numéro de téléphone des parents qui était très... Enfin, si, j'avais le numéro de téléphone des parents qui était très âgé. J'ai pas voulu prévenir les parents par téléphone. Je me suis dit, ils sont beaucoup trop âgés, je vais aller les voir pour leur annoncer. Et à ce moment-là, elle me dit, mais non, laisse tomber, n'y va pas, c'est pas la peine. Et je dis, non, on peut pas l'enterrer sans ses parents, ça se fait pas. Et je me suis occupée des obsèques. Pour que les parents soient présents, j'ai tout bloqué parce qu'elle était déjà prête à le faire enterrer. On a fait les obsèques avec les parents et depuis que j'ai pris les choses en main et qu'elle s'est rendue compte qu'on avait plein d'amis et plein de relations en commun, elle récupère les numéros de téléphone de tout le monde, se met en contact avec tout le monde parce que ses amis voulaient faire quelque chose pour lui rendre hommage et elle veut être mise à l'honneur ce jour-là. Et j'ai dit, mais non, moi, j'ai pas voulu lui donner les numéros des gens. Et du coup, elle essaye d'aller, elle est allée directement voir certaines personnes parce qu'elle savait, elle était passée chez eux avec moi et elle savait où ils habitaient. Et elle est allée en voir un en lui disant, ben, j'ai pas ton numéro, donne-moi le numéro, puis donne-moi le numéro d'un tel, les numéros d'un tel.
Ouais.
Et tout ça, c'est extrêmement compliqué à vivre pour moi. Et le dernier élément que j'ai appris et qui me pose le plus de questions, c'est que je trouvais qu'elle avait, un comportement, une gestuelle, des choses que je trouvais un peu particulières, un peu dissonantes. Et elle a fini par m'avouer, il y a deux jours, en fait, qu'elle n'est pas une femme, mais qu'elle est un homme.
Ah! Alors, un transsexuel ?
Pas opéré, donc je ne sais pas, en cours de...
Et ça, vous ne l'avez pas vu ?
Moi, je l'ai... Vous savez, j'étais tellement dévastée. Je me disais, ah oui, il y a des choses particulières, mais j'avais l'impression que... Je me disais, c'est parce que tu es jalouse que tu penses tout ça. Je pensais beaucoup de choses négatives. Et je me disais, c'est ma jalousie qui me fait penser ça.
Et pourquoi est-ce qu'il vous l'a dit alors finalement ? Dans quel but ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle m'appelait, on discute des heures au téléphone. Ce que mon entourage me dit, mais tu ne peux pas copiner avec cette personne.
Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous ?
Je ne sais pas. J'ai l'impression que de découvrir toutes ces années de vie où je ne savais pas quelle était l'autre partie de sa vie, je ne sais pas.
Il y a une seule chose que ça pourrait expliquer, c'est vos non-relations sexuelles. Si effectivement il n'était pas attiré par les femmes, ceci aussi peut expliquer cela.
Moi, je me suis posé la question il y a... Oui, au bout de 4-5 ans de vie ensemble, parce qu'il avait des pratiques et il voulait certains jeux sexuels qui, pour moi, portaient vers des pratiques qui étaient, dans mon esprit, pas forcément des pratiques hétérosexuelles, mais moi, j'étais ouverte à ce genre de choses. Pour moi, c'était un jeu comme un autre. C'est un homme qui mettait mes bas, qui aimait porter de la lingerie féminine.
Il y avait quelques signes, oui, quand même.
Voilà, et puis, d'autres détails qui font que je me suis posé des questions à un certain moment.
Mais est-ce que vous les avez posées à lui, les questions ? C'est ça qui m'intrigue un peu dans votre histoire.
Non.
Parce qu'un homme qui s'habille en femme et qui n'a pas envie de vous, il y a peut-être de quoi lui poser des questions. sans culpabiliser aucunement, mais simplement en lui disant, voilà, est-ce qu'il faut qu'on parle de quelque chose? Est-ce que tu n'aurais pas des choses à me dire?
Non, il ne s'habillait pas en femme, mais il aimait bien mettre des sous-vêtements de femme.
Oui, mais bon, il y a quand même un petit signe. Écoutez, là derrière ça.
Moi, quand cette femme m'a dit qu'elle était un homme, je lui ai dit mais que moi j'avais eu l'impression déjà, j'avais remarqué ça chez elle, et je lui ai dit mais qu'il ait des relations avec un homme, ça ne me surprenait pas, parce que j'avais eu des doutes il y a 15 ans déjà, donc, et elle m'a rétorqué que pas du tout, c'était pas du tout une relation homosexuelle, que ce qu'il appréciait en elle, c'était précisément sa féminité.
Là encore, ce sont ses paroles. Mais je vous dirais, Marie, que presque peu importe finalement. Le problème me paraît même pas tellement là. Le problème me paraît ça concerne les relations qu'il ou elle instaure avec vous et que je trouve pas très nettes. Parce que vous êtes évidemment doublement fragilisée. D'une part par son décès à lui, et d'autre part par les espoirs qui commençaient à poindre depuis quelque temps. Et en plus, par la découverte qu'il y avait quelqu'un dans sa vie. Homme ou femme, à la limite, ça ne change pas grand-chose. Donc vous êtes particulièrement fragile et j'ai l'impression que cette personne en profite un peu trop, je pense. C'est comme si, j'ai l'impression, vous me dites si je me trompe, mais que vous acceptez ça comme si c'était le dernier lien que vous pourriez avoir avec lui.
Oui, tout à fait.
Mais je ne suis pas certaine que ce lien-là soit très sain pour vous, voyez.
Ça me donne l'impression de déjà de connaître une part de lui que je ne connaissais pas, parce que cet homme gentil, attentionné, prévenant, je ne le connaissais pas comme ça.
Marie, une fois de plus, méfiez-vous, c'est ce qu'elle vous dit, ou ce qu'il vous dit. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Hein. Une fois de plus, quelqu'un qui est assez manipulateur ou manipulatrice, je ne sais pas très bien dans ce cas-là comment il faut dire, peut parfaitement trouver pile les mots qu'il faut dans ces moments-là. Une fois de plus, qu'est-ce qui vous prouve que ce qu'il ou elle vous dit est vrai? Rien pour l'instant. La seule chose, c'est que vous êtes dépendante à cette relation parce que c'est comme un dernier fil vers lui, en fait. Et que vous avez peut-être l'impression que si vous coupez avec elle, vous allez couper avec lui aussi.
Oui, je crois.
Et ça, c'est pour ça que je demandais quand est-ce qu'il est mort, parce que c'est très récent. Et ça va faire partie du travail de deuil, de couper ça.
Oui, c'est très récent. Et en plus, comme les obsèques ont été longues à organiser, les obsèques ont eu lieu il y a une semaine.
Oui, vous avez été dans le tourbillon de tout ça pendant un moment.
Oui, oui. Parce que les parents étaient dans une autre région, il fallait faire rapatrier le corps. Oui, j'ai fait des va-et-vient incessants pour réunir toute la famille autour de lui.
Dans ces cas-là, on tient par les nerfs à ce moment-là.
Et puis, c'est la première fois que je perds quelqu'un. J'ai jamais eu de décès autour de moi et perdre quelqu'un de proche. Et quand il est parti, je me suis rendu compte à quel point je l'aimais encore. Et pourquoi j'étais restée dans la région et pourquoi j'étais près de lui. Parce que moi, j'ai déménagé il y a 3 ans pour me rapprocher de lui. Je ne me rendais pas compte, mais en fait, pour me rapprocher de lui.
Et oui, puis il a fait tout ce qu'il fallait pour aussi, hein, sur la fin. Je suis en train de penser à vous. Je suis tombée pendant mes vacances sur un très très joli texte sur la mort. Et je ne sais pas si vous savez que j'ai une page Facebook qui s'appelle Sabine Marin Officielle pour partager avec vous ce genre de choses. Et demain, je mettrai ce texte-là pour vous.
Merci.
Il est absolument magnifique. C'est un texte que je n'avais encore jamais vu, qui est très très beau. Je le mettrai sur ma page demain.
Mais je suis déboussolée parce que je ne pensais pas que sa mort me mettrait dans cet état-là. Et puis effectivement, je ne comprends pas pourquoi j'ai besoin de ce lien avec cette femme et qu'à chaque fois qu'elle me parle, ça me fait encore plus mal de l'écouter, mais que j'arrive pas à couper ce lien.
Parce que je pense que vous auriez l'impression de couper avec lui. Sauf que vous savez, le deuil, c'est vraiment quelque chose entre soi et soi. Et j'ai l'impression qu'elle est en train de vous voler ce deuil-là. Il y a quelque chose de pas sain dans sa manière de faire et d'être.
Ben, moi, je croyais avoir été la dernière personne avec qui il avait vécu longuement. Et,
Bah, attendez, vous me dites qu'elle ne vivait pas là. Elle passait.
Non, elle... Mais oui, mais elle dit à tout le monde qu'elle est sa compagne. Donc, tout le monde suppose qu'ils vivaient ensemble. Et puis, une
suppose,
chose...
vous avez le verbe juste, suppose.
Alors, elle me dit qu'elle était présente à ses côtés, qu'elle venait le voir à l'hôpital tous les jours, qu'elle s'est installée chez lui pour pouvoir s'occuper de lui quand il est après sa sortie de l'hôpital. Alors, et ce qui est assez bizarre, c'est que quand il a été hospitalisé et qu'il a rempli son dossier médical et qu'il fallait désigner une personne de confiance, c'est moi qui l'ai indiqué.
Ben voilà. Vous voyez la différence entre les faits et les mots ?
Et ça m'a énormément surprise. Et elle n'était pas contente quand elle s'en est rendue compte. Et il lui a dit que c'est parce qu'il fallait donner un numéro de téléphone et qu'il ne se souvenait pas de son numéro de téléphone par cœur et qu'il n'y avait que le mien qui connaissait par cœur.
Ça ne vous paraît pas un peu facile ?
Et après, et elle me dit, mais il avait son téléphone dans sa poche, donc pourquoi il a fait ça ?
Ben voilà. Il me semble, Marie, qu'il est très important que vous compreniez que le lien que vous avez avec lui ne passe pas par elle. Quel que soit ce qu'ils ont vécu, elle ou lui, ce qu'ils ont vécu, pas vécu, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, c'est leur histoire, ça ne vous concerne pas. Et le lien qu'il y avait entre lui et vous, il est entre lui et vous. Et le deuil que vous avez à faire, c'est un deuil entre vous et vous. Et lui, pas elle. Vous êtes en train de vous laisser vampiriser, là, vraiment. Et parce que, comme vous le dites si bien, vous sortez du tourbillon des obsèques, une période dans laquelle on est dans une espèce d'excitation nerveuse finalement qui fait qu'on tient debout, et quand ça se termine, tout s'écroule. Et là, on commence à réfléchir. Mais on est extrêmement fragile dans ces moments-là. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a pas l'air d'être très fragile, hein, de ce que j'entends. Quelqu'un qui semble avoir pris le pouvoir, si vous voulez. Ou en tout cas, qui essaie de le prendre.
Qui l'a pris. Là, je me rends compte qu'elle a pris les rênes. Moi, j'ai dit, j'ai voulu organiser cette commémoration, cet hommage avec les amis. On m'en a dit, bon, on va se faire une petite soirée tous ensemble à la rentrée. J'ai contacté ses copains et tout. Et là, elle a pris les rênes là-dessus en disant « Mais non, tu ne vas pas organiser ça sans moi. Donne-moi les numéros de tout le monde, je vais m'en occuper. » Et je ne l'ai pas fait. Et derrière mon dos, elle est allée rencontrer les gens pour trouver les numéros.
Est-ce que vous trouvez ça normal ?
Ben, c'est là où, hier, je me suis secouée. J'ai appelé un de ses copains. Je lui ai dit « Mais attention, elle est en train d'appeler tout le monde. » Et puis... Et surtout que si elle leur demande de l'argent et qu'ils ne donnent pas...
Tout à l'heure, je voulais aborder le sujet avec vous, justement, parce qu'on parle d'obsèques, mais ça se paye, tout ça. Comment elle est par rapport aux frais ?
Ben, elle n'a pas participé aux frais parce qu'elle vit du RSA.
Ah bah tiens.
Donc, elle a posé les choses dès le début en me disant « Moi, je n'ai pas les moyens pour ça. »
Par contre, elle prend le pouvoir quand même.
Oui, elle a pris le pouvoir à tel point qu'elle a choisi un cercueil que je ne voulais pas du tout, qu'elle a organisé la cérémonie d'une manière qui ne me plaisait pas du tout, mais je n'avais pas mon mot à dire.
Si, Marie, le problème, c'est qu'il faut que vous compreniez que sa liberté à elle s'arrête là où elle entame la vôtre. Et que c'est à vous de dire stop.
Elle s'est présentée comme étant la compagne. Moi, j'étais une vague ex, donc...
Alors, qui a dit que vous étiez une vague ex ? Vous avez été sa compagne. Pendant des années. Vous avez été sa meilleure amie.
Ben pendant 20 ans.
Et ben voilà.
Et on était très très proches les derniers temps.
Je crois que c'est quelqu'un qui profite vraiment de votre état de faiblesse en ce moment. Vous avez été sa compagne pendant 20 ans. Vous avez été son amie. Sa confidente. Sa conjointe. Vous. Pas elle, ou pas lui. Et quand bien même il y aurait une histoire entre eux sur la fin, c'est peanuts par rapport à ce que vous avez vécu tous les deux. C'est votre histoire, c'est votre deuil, elle n'a rien à faire entre vous deux.
Mais je ne comprends pas pourquoi il l'a mise de côté et qu'il ne l'a présentée à aucun de ses amis.
Bah, déjà, j'imagine que si vraiment c'est un transsexuel, c'est pas quelque chose d'évident. à présenter à la famille, aux amis. Ensuite, peut-être que contrairement à ce qu'il ou elle dit, c'était quelque chose de récent et de pas forcément extrêmement important pour lui, pour votre ex-mari. C'est pas forcément quelqu'un qui a compté. Une fois de plus, tout ce que vous avez, c'est sa version à elle, à lui.
Je me dis que c'est quelqu'un qui a été présent. Alors que au moment où moi je l'ai laissé et qu'il s'est retrouvé seul, donc elle a fait ça pour lui. Elle a été présente pendant que moi je travaillais, pendant que j'étais pas là et pendant tout ce temps.
Mais là, ce sont des films que vous faites souvent aussi. Je parle sur cette antenne de l'interprétation. À quel point il faut se méfier de l'interprétation. Là, vous vous racontez un film dont vous n'avez que très peu d'éléments et les éléments qui vous manquent, vous les inventez. Et en plus, vous choisissez un scénario qui vous fait du mal. Vous ne savez pas la réalité de leur relation. Vous ne savez rien d'autre que ce qu'elle vous fait croire. Moi, tout ce que j'entends, c'est que vous avez besoin d'être aidée en ce moment. Est-ce que vous avez des amis proches, des amis de confiance?
C'est des amis qu'on avait en commun. J'ai quelques amis de mon côté, mais beaucoup d'amis sont des gens qu'on avait en commun.
Peu importe, est-ce qu'il y a parmi ces gens-là quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance?
Oui, j'ai une amie très proche en qui j'ai pleinement confiance.
Il me paraît important de vous rapprocher de gens comme ça en ce moment, oui. Et de ne pas vous laisser vampiriser par cette personne qui n'est pas à sa place pour moi dans cette histoire.
Alors, c'est compliqué parce que les amis très proches ne comprennent pas le fait que on soit collés ensemble depuis que je l'ai rencontré. Et tout le monde me dit, mais tu es au resto avec elle, tu passes tes journées avec elle. Et j'ai un petit peu coupé avec mes amis parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre le fait que je passe mes journées avec elle.
Oui, mais là, je pense que la conversation qu'on a ce soir, j'espère en tout cas qu'elle commence à vous ouvrir des portes. Que vous commencez à comprendre aussi que vous êtes manipulé par cette personne-là. Marie, je dois marquer une nouvelle pause. Ça nous laisse quelques secondes pour réfléchir à ça et je vous récupère, d'accord ?
Merci.
Merci à vous, à tout de suite.
La Libre Antenne d'Europe 1, Sabine Marin accompagne vos nuits.
Marie, vous savez, quand on est très perturbé par un événement douloureux, on n'a pas le recul sur les choses et je pense qu'il pourrait être intéressant que d'ici 2-3 jours vous écoutiez le podcast de cette émission et que vous réécoutiez tout ce que vous m'avez dit. Je suis persuadée qu'en entendant ce que vous avez dit, vous allez déjà prendre du recul et comprendre des choses.
D'accord.
Parce que là, c'est normal, tout se mélange, il y a des émotions qui sont puissantes, mais une fois plus, ce deuil, il est entre vous et votre ex-compagnon. Cette personne n'a rien à faire là-dedans. Quel que soit ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé, ce qui aurait pu se passer, ce qu'elle vous dit, ce qui est la vérité, ce qui n'est pas la vérité, de toute façon, comme vous dites, ce ne sera que des interprétations, vous ne saurez pas la vérité. Vous vous montez des films, vous vous montez des scénarios, mais moi, tout ce que je vois de l'extérieur, c'est qu'elle vous vampirise complètement. Parce que pour l'instant, vous avez l'impression que ce deuil, c'est comme si vous ne vous autorisiez pas à être celle qui a le droit de faire son deuil, parce que légitimement, vous êtes sa compagne, vous étiez sa compagne. J'ai l'impression que vous n'osez pas aller sur ce chemin-là sans passer par elle, par lui. Or, vous êtes parfaitement légitime pour entamer ce deuil de votre ex-compagnon seul avec lui. Vous n'avez pas besoin de cette personne. Elle, visiblement, a besoin de vous. Ça paraît très clair pour des raisons que j'ignore, probablement intéressée. Parce que j'ai du mal à imaginer qu'elle se soit attachée à vous subitement comme ça. C'est pas ça l'amitié. L'amitié, ça demande des preuves, pas simplement des mots. Elle est en train de vous voler quelque chose d'important.
Déjà, j'ai eu l'impression qu'elle m'a volé la journée des obsèques.
Elle vous vole ce deuil, c'est bien ce que je vous dis.
Elle a fait énormément de choses. D'ailleurs, que sa famille, elle, lui, n'a pas apprécié. Et ses parents n'ont pas voulu la recevoir chez eux. Ce sur quoi elle était assez en colère. Donc, ils m'ont reçue. Je suis restée passer la journée, la soirée. J'ai dîné. Je suis restée avec toute la famille, puisque la famille me connaissait. Mais le contact n'étant pas passé avec elle, ils n'ont pas voulu la recevoir.
Mais parce que vous êtes légitime, Marie, dans cette histoire. Quelle que soit la fin, même si vous avez été séparés, puis de nouveau plus ou moins ensemble ou pas, peu importe, vous êtes légitime. Vous êtes quelqu'un qui a compté dans sa vie pendant plus de 20 ans.
Oui, mais je suis aussi la personne qui l'a abandonné les dernières années, qui l'a laissé sombrer dans la dépression.
Alors, vous ne l'avez pas abandonné, Marie. Vous êtes un couple qui s'est séparé parce que ça ne fonctionnait plus. Vous savez, le problème quand on perd quelqu'un, quand il y a un deuil quelque part, c'est qu'on cherche toujours un coupable. Et comme souvent on ne le trouve pas, eh bien on se met ça sur le dos. On trouve toujours un moyen de se dire « c'est de ma faute ». Il y a plein de gens qui sont dans ce cas-là. « C'est de ma faute, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, pourquoi j'ai dit ci, pourquoi j'ai fait ça ?» Ça n'est pas vrai, Marie, ça n'est pas vrai. C'est quelqu'un avec qui ça ne fonctionnait pas en tant que couple. Vous avez commencé par me l'expliquer très clairement. C'est de la faute à personne. Comme on dit, c'était pas le bon pied pour la bonne chaussure, ça arrive. Vous avez essayé, ça n'a pas fonctionné. Après ça, il y a une relation d'amitié qui s'est créée, de complicité en tout cas.
De complicité, vraiment.
Et oui.
C'était plus que de l'amitié.
Et vous, au lieu de garder ces choses-là positives, vous focalisez uniquement sur le côté « c'est de ma faute, je l'ai quitté, il a sombré ». Et si vous l'avez quitté, c'est parce que ça ne marchait plus entre vous. Et parce que vous étiez en train de sombrer.
Oui.
Et oui.
Moi, j'ai mis du temps à remonter la pente. Mais je me suis battue. Je me dis, quand on a des enfants, on ne peut pas se laisser couler.
Et une fois de plus, chacun est responsable de sa vie. Si lui s'est laissé sombrer parce que vous êtes partie, c'est sa responsabilité, c'est pas la vôtre. Comme vous dites, vous avez remonté la pente et ça n'a pas été facile. Donc il aurait fallu quoi selon vous? Que vous vous portiez vous-même et que vous le portiez lui en plus? Et les enfants? Ça faisait beaucoup.
Ben, je l'ai fait pendant des années, mais j'y arrivais plus.
Et ben, voilà.
J'étais à bout.
On est bien d'accord.
Je ne pouvais plus. Et j'ai dit stop à ça. Je lui ai dit, mais toi, il faut que tu sois indépendante. Tu ne peux pas rester comme ça là à compter sur moi. Et je voulais qu'il se débrouille un peu tout seul, quoi. Mais je ne comprends pas. Alors, moi, ma question, donc c'est la première fois que je vis un deuil. En ce moment, je suis en arrêt, je suis chez moi. Et je ne pense qu'à lui toute la journée. Et je n'arrive pas à penser à autre chose.
Ce qui est complètement normal quand ça vient d'arriver. Il y a une petite chose à faire dans ces cas-là, quand on est au début d'un deuil. C'est chaque jour se dire qu'on va s'accorder un temps que pour ça. Alors au début, ça peut être très long, ça peut être, mettons, toute la journée. Et puis la semaine d'après, ça peut être, allez, on s'accorde la demi-journée, à regarder les photos, à y penser, à pleurer, à écouter une musique, à se consacrer à ça. Et puis petit à petit, on réduit. Et on bascule vers des choses qui sont plus légères, plus positives, qui nous font du bien. Mais au début, effectivement, si c'est la première fois que vous vivez un deuil, c'est un peu logique d'être perdu aussi dans tout ça. Ça fait partie de la première étape du deuil, ça. On est dans une espèce de marasme, on a l'impression qu'il y a des murs partout autour et qu'on n'en verra jamais la sortie. Mais je vous assure que si. Et pour l'instant, ce qui m'ennuie plus que le processus de deuil, c'est cette personne-là qui est en train de vous le voler, ce processus-là. Qui est en train de vous voler votre place a posteriori. Rapprochez-vous des gens qui vous aiment vraiment et écoutez-les. Je pense qu'ils vous diront la même chose que moi.
Oui, tout à fait.
Et oui.
Tout à fait, c'est ce qu'ils me disent, mais je me suis un petit peu coupée d'eux parce que, en fait, je me suis coupée de mon entourage pour passer mon temps avec elles.
Alors moi, je dirais qu'elle vous a coupé de votre entourage surtout. Ça, c'est la manipulation. Vous savez ce que je vais faire demain, non seulement sur ma page, je vais vous mettre ce texte que je trouve merveilleux, mais je vais refaire une synthèse des étapes du deuil qu'on franchit.
Ah oui.
Hein, je vous dis, j'en parle très souvent, mais peut-être vous n'avez pas entendu ça. Et vous comprendrez ce que vous vivez en ce moment.
Vous en parlez souvent, effectivement, et tant qu'on n'est pas concerné, on l'écoute d'une oreille.
Et
mais
oui.
Quand on est blessé, il faut être dedans. Mais je ne savais pas que ça vous mettait dans un état de... Mais j'ai pleuré sans discontinuer pendant une dizaine de jours.
Non, mais là, le contexte est très particulier en plus.
C'était incroyable. Je me dis, mais pourquoi tu pleures comme ça? Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. J'avais envie de lui crier que je l'aimais, qu'il ne fallait pas qu'il meure, parce qu'il s'est laissé mourir aussi. Et ça, c'est aussi dur à encaisser, d'être face à quelqu'un qui dit je ne veux pas me soigner.
Marie, jusqu'à ce... pardonnez-moi, je vous propose deux choses, parce qu'il ne nous reste 15 secondes pour finir l'émission. Petit 1, on se retrouve sur ma page Facebook demain. Oui. Et petit 2, si vous avez envie de me rappeler dans quelques jours, faites-le. Qu'on suive l'évolution de tout ça, d'accord? Le temps que vous puissiez digérer tout ce qu'on s'est dit, tout ce que je vais vous écrire demain, et on en reparle. Vraiment, hein.
Merci beaucoup.
Ma porte est grande ouverte pour vous.
Merci beaucoup, Sabine, merci.
Je vous embrasse, Marie, prenez soin de vous. Il me reste 3 secondes pour dire au revoir tout le monde, c'est terminé. Demain soir, on se retrouve à 22h15 jusqu'à minuit, et je vous quitte avec la phrase du jour. Ne dites jamais « je n'ai pas réussi », dites « je n'ai pas encore réussi ». Bonne nuit.